Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les organisateurs, Jean-Baptiste Amadieu et M. Pierre Glaude, de m'avoir permis de prendre la parole lors de ce colloque. Je vais continuer à dire, comme il a été dit dans la première partie de cette séance, qu'aucune simplification n'est acceptable quand il s'agit de Léon Blois. Je vais vous parler de la violence verbale et d'une dimension un peu particulière de cette violence verbale. Donc, vous savez que Léon Blois s'exprimait souvent de manière métaphorique et il affirmait que le second degré de ses discours n'était généralement pas correctement perçu par ses lecteurs. La violence verbale qui était la sienne, que ce soit dans ses textes mais aussi dans ses relations quotidiennes, apparaissait trop directe et trop brutale pour rester du ressort de la parole aux yeux de certains de ses interlocuteurs. Dans une lettre adressée au père Cyprien en 1883 pour lui annoncer le refus de l'éditeur Palmé de publier son article sur la Grande Chartreuse, il affirme « Un jour, j'ai menacé Palmé, son éditeur donc, de lui brûler la cervelle et personne dans la boutique n'a jamais pu discerner la profonde ironie de cette menace absurde. » Donc la violence verbale, qui était celle de Blois, comme il a été dit aussi tout à l'heure, en termes de contexte, était pourtant bien moindre que celle d'autres pamphlétaires de son temps, comme par exemple Léo Taxil ou Laurent Taillade, qui publiait régulièrement dans l'éloquente collection La Bibliothèque anticléricale et qui préconisait dans les journaux une esthétique de la violence en vogue depuis la Commune dans les milieux littéraires parisiens. Donc je ne vais pas revenir ici sur les lois de libéralisation du Second Empire de 1868 ou les lois sur la presse de 1881 qui portèrent au plus haut degré la violence des joutes verbales et l'âpreté des polémiques à ce moment-là de la vie médiatique française. Mais ayons simplement à l'esprit que les réformes libérales du Second Empire permettent l'augmentation du nombre de lecteurs actifs, induisant une redéfinition du rôle social de la littérature et de la responsabilité de l'écrivain. Et c'est dans ce contexte que je voudrais me demander quel pouvoir intrinsèque Léon Blois accordait-il au verbe ? Comment envisageait-il le pouvoir de la parole ? Je souhaiterais étudier dans cette intervention une dimension de la violence verbale dans l'œuvre de Blois qui n'a, selon moi, jusqu'ici pas été correctement identifiée. Il s'agit de sa dimension pragmatique et rituelle. La constante application de Blois à des obligés, la désinvolture de l'attitude du conteur, son goût du sarcasme, le recours à l'apostrophe offensante, la mise en scène d'images provocatrices car sanglantes et sacrificielles, s'abattant sur ses ennemis dans ses brochures polémiques, est-ce que tout ça constituait une simple occasion opportuniste de publicité facile ? Pourquoi est-ce que Blois écrivait toujours contre ? Pourquoi se réjouissait-il de consterner les multitudes en attirant sur lui des persécutions extraordinaires ? En somme, de quelle utilité serait le massacre et ce qu'il appelait le scalp critique ? Donc, si l'on procède par élimination, le jeu de massacre critique ne semble pas avoir d'autre utilité sociale que celle de transformer le dit critique en paria des lettres qu'il était. D'un point de vue littéraire, la modalité violente de la mise à mort de l'ennemi semble plus féconde si l'on fait l'hypothèse qu'elle possède une dimension religieuse et sacrée. En commentant le récent propos d'un entrepreneur de démolition, Elémir Bourges raille les procédés de son auteur dans Le Gaulois du 31 mai 1884. Donc, je crois que vous avez un exemplier. Donc, c'est le premier texte de cet exemplier. Voilà ce que dit Elémir Bourges sur Léon Blois. « Entendez-vous gronder le terrible tonnerre, tonnerre de théâtre, hélas ? Car ce fracas est un fracas de rhétorique et ce mugissement artificiel. Il faut une préparation à ces énormités, à ces truculences qu'affecte M. Léon Blois. Pareil aux victimaires anciens, avant d'écorcher ses victimes, il les gonfle devant et il les fait énormes. Puis, il appuie sur sa massue. « Quel Hercule je suis !» dit-il. Mais tout cela n'est que de l'air, du vide et de la vanité. » Jusqu'aux gros yeux de M. Léon Blois, ses joues tendues. Son air violent rappelle ces éoles enflées que l'on voit souffler les tempêtes au fronton des anciens buffets d'eau. Donc ici, un tonnerre de théâtre, fracas de rhétorique, mugissement artificiel. La critique de Bourges porte essentiellement sur le caractère artificiel et amphigourique de la prose bloyenne, qui ne ferait qu'altérer la réalité, voire la créer de toutes pièces. Or, à ce moment-là de la vie littéraire parisienne, la sincérité et la fidélité sont reines. Et l'artiste qu'est Léon Blois détonne dans cet univers qui aborde les excès de l'imagination. Et d'ailleurs, la lettre à la jeunesse que Zola fait paraître dans le Voltaire quelques années auparavant spécifie bien que, je cite, « la folie du lyrisme ne peut faire naître que des fous héroïques et il nous faut des soldats solides, sains d'esprit et de corps, marchant mathématiquement à la victoire ». Donc, Elémir Bourges, comme nombre de ses confrères, n'a pas su analyser la portée réelle du fracas blouaïen. Pourtant, il fait allusion avec justesse aux victimaires anciens qui grandissent ses victimes avant de les écorcher. Dans tout rituel sacrificiel, la mise en scène du passage à l'acte est éminemment artificielle. Elle vise avant tout à intimider le public. Et je fais ici le pari que la portée du fracas blouaïen est davantage d'ordre religieux dans le sens étymologique du terme que rhétorique. L'énigme face aux violentes ruées contre son public se résout. Si l'on envisage que Léon Blois n'entend pas tirer son autorité de son public, mais du rapport sacré au sens anthropologique du terme qu'il instaure avec lui à travers la violence ritualisée du texte. Rapprocher la violence verbale du geste rituel invite à réfléchir à l'efficacité visée du modus operandi de l'objet littéraire. Mais avant d'aborder cette dimension pragmatique de la violence verbale dans l'œuvre de Blois, j'aimerais vous exposer les textes dans lesquels Blois revendique un langage qui n'est pas celui de ses contemporains, mais celui préconisé par les textes sacrés, dont Pierre Glaude en a parlé tout à l'heure. Je suis venue pour apporter le glaive, l'épée. Nous verrons dans un deuxième temps que le recours à la violence verbale vient remplacer une volonté d'agir qui est liée à la croyance au pouvoir d'agir de la parole de Léon Blois. Et enfin, nous verrons dans quelle mesure l'obsession sanglante et la nostalgie du sacrifice humain viennent servir une poétique de la persécution. Donc tout d'abord, sa violence verbale qui vient des Écritures. Donc, on sait que le catholicisme de Blois est un catholicisme imprécateur qui revendique, en termes de violence verbale, les prescriptions de l'Écriture. Dans la lettre dédicace à Rodolphe Salis, qui sert de prélude à ses propos d'un entrepreneur de démolition, Blois affiche l'intransigeance de sa posture désormais bien établie de pamphlétaire en termes chrétiens. Il y revendique le séparatisme de tous les envoyés de Dieu, les prophètes bibliques, dont il adopte l'attitude imprécatoire. La portée performative de ce texte est très particulière, puisque ce texte maudit la société contemporaine, incrédule et athée. Et donc, cette malédiction le distingue d'un quelconque texte de critique littéraire ou de satire sociale. En maudissant Blois renoue avec des pratiques magiques héritées des textes sacrés, où les prophètes avaient seuls, de pair avec Dieu, dont ils transmettaient les avertissements, le pouvoir de prier contre, du latin in precari, c'est-à-dire de souhaiter la mort, la disparition. Comme le discours polémique, l'imprécation a pour objectif la mort symbolique de l'interlocuteur. Héritant de la vieille coutume païenne des imprécations publiques grecques et romaines, l'Église primitive renoua avec l'imprécation dans sa pratique de l'anathème. Dans son grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Pierre Larousse, à l'antenne imprécation, ravale cette pratique au rang des superstitions des civilisations passées, je cite, « Tout cela est aujourd'hui bien passé de mode et n'effraie plus personne. Pourtant, le pape et les conciles ne se résignent pas à abandonner ces vieilleries. » Anathema sit, telle est la suprême formule de l'imprécation ecclésiastique. Elle aussi a fait son temps. Blois justifie l'imprécation par un besoin de justice, alors celle-ci se définissant à ses yeux, dans son esprit, non dans son acception libérale évidemment, mais dans son acception biblique, comme le résultat de comportements conformes aux préceptes sacrés. Dans le domaine de la critique littéraire, Blois qualifie cet exercice de scalp critique dans un texte du même nom. Le terme de scalp nous permet d'envisager cette propension au massacre littéraire dans la dimension religieuse et rituelle du sacrifice. La parole ritualisée, et ainsi elle confère à son énonciateur un statut particulier. Dans la droite lignée des prophètes ou des pères de l'Église exégètes, l'imprécation est la manifestation de la dimension providentialiste de l'histoire et donne aussi une certaine autorité à son énonciateur. Blois glorifie régulièrement le conflit, on appelle à l'esprit du Sabaoth, dans un texte notamment comme la Lamentation de l'épée, avant tout pour rappeler aux hommes leur corruption depuis la chute, donc dans un esprit de piété et de miséricorde. L'exercice du scalp critique est, de l'aveu même de Blois, je cite, « la seule raison plausible d'accepter la vie moderne. Sans imprécation, sans appel à la violence, privée de la douceur de moudre le genre humain, la vie moderne n'aurait aucune raison d'être selon lui. » Pour cette raison, Blois attaque dans ses œuvres ce qu'il considère, et ici je cite Pierre Glaude caractérisant l'esthétique de Barbey d'Aurevilly, car les points communs de ces deux auteurs sont extrêmement nombreux. Donc Blois attaque ce qu'il considère comme une illusion moderne, à savoir l'idée d'un progrès de la civilisation identifié au développement de l'esprit humain, dans un monde qui serait débarrassé de la barbarie, de la superstition et du fanatisme religieux. Évidemment, rien de plus illusoire que ce prétendu perfectionnement universel qui ouvrirait une ère de justice et de fraternité en adoucissant les mœurs. Donc sa littérature, servant des fins apologétiques, comme jadis le roman aurévilien, refuse de se soumettre aux normes de la littérature apologétique du siècle finissant, car il y voit l'impasse décrite dans les dernières colonnes de l'Église, dont la violence verbale contre Copé, Brunetière et autres écrivains catholiques consensuels témoignent du rejet de ce qu'il appelle la philanthropie ecclésiastique, qui trahit, selon lui, le véritable esprit de l'Église. Et en son temps, Barbet avait également exprimé cette idée en fustigeant le sentimentalisme romantique niais, mis en œuvre par exemple dès 1850 par Lamartine dans son roman Geneviève, qu'il attaque dans une critique. Il accuse Lamartine d'avoir, je cite, « augmenté cette disposition de la pensée moderne vers un mysticisme faux et indécis que les niais prennent pour du christianisme progressif, comme si le christianisme vérité absolue pouvait progresser ». On trouve, dans une histoire d'une servante de Lamartine, une de ces dangereuses prières que nous avons déjà entendues, opposée aux prières du catholicisme, parce que l'esprit du christianisme n'y est plus. Alors, qu'est-ce que l'esprit du christianisme, dans cette perspective ? C'est l'idée que les Écritures légitiment la violence, voire l'encouragent. « Regnum caelorum vim patitur et violenti rapiut ilund ». Donc, ce passage est extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, en chapitre 11, paragraphe 12, est récurrent dans l'œuvre de Léon Blois, et il apparaît notamment dans la dédicace des propos d'un entrepreneur de démolition à Rodolphe Salis. Dans ce passage, je cite, « Soyons donc, si nous le pouvons, ces aigles, ces violents, ces passionnés, ces infatigables, ces martyrs, ces persécutés et ces persécuteurs, et comprenons enfin que l'étonnante parole est vraie de toute manière, regnum caelorum vim patitur et violenti rapiunt illud. » Donc vous l'avez dans votre exemplié, et on pourrait traduire cet extrait de saint Matthieu par « Le royaume des cieux se prend par la violence et les violences s'en emparent ». Donc c'est une idée qui défend que le monde est une lutte sans fin entre violent et violenté. Cette parole permet à Blois de promouvoir les figures principales de cette dramaturgie agonique, l'imprécateur et ses destinataires, le persécuteur et les persécutés. Par violence, Blois entend avant tout la dissension dans le but de dévoiler la vérité dans une perspective eschatologique. Sa rébellion est profondément théologique et sa croyance en la sainteté des insurrections est scandée dans toute son œuvre. Or, dans ses romans, dans ses textes critiques et polémiques, dans ses évocations historiques, dans ses journaux, le dispositif dual persécuté-persécuteur a ceci de particulier que Blois lui-même endosse tantôt le rôle du persécuté, tantôt le rôle du persécuteur. Donc, notamment le rôle du persécuteur quand il appelle à la destruction, suggérant ainsi son impatience de voir s'accomplir l'Apocalypse qui viendra châtier le monde chrétien de son incrédulité. Par cette posture intransigeante, Blois entend se distinguer de ses contemporains, et donc ici, hein, j'entends contemporain par pair, P-A-I-R-S, en littérature, mais également des hommes de son temps. On peut considérer que l'imprécation bloisienne constitue une résistance d'ordre politique. Cédric Passard, dans son récent essai publié aux éditions du CNRS « L'âge d'or du pamphlet », envisage le fait pamphlétaire comme une forme symbolique de résistance à la mise en place d'une culture civique à prétention dominante, et plus généralement au procès contemporain de civilisation des mœurs politiques. Transgressant les usages du discours conformes à l'idéal républicain, le pamphlet de la fin du XIXe siècle peut être compris comme une tentative de dépacification du jeu politique. Une des hypothèses majeures de l'ouvrage de Cédric Passard est que cette transgression par les mots a pu constituer un mode transitoire et paradoxal de gestion des passions politiques, en incarnant une forme symbolique de participation non conventionnelle au jeu politique et en euphémisant la violence réelle, évidemment. Dans quelle mesure le pamphlet boyen est-il une forme d'action politique, ou en tout cas d'intervention dans le forum de la cité ? La violence verbale de Blois semble venir remplacer une volonté d'agir qui a toujours été évoquée dans son œuvre et qu'il regrette de ne pouvoir porter plus avant. Par exemple, dans une lettre à Jean de Laurency, il regrette, je cite, « Je pouvais devenir un saint, un thaumaturge, je suis devenu homme de lettres ». Il rapproche le saint du thaumaturge, celui à qui est échue une charge sacrée, ayant lui-même été consacré et détenant un pouvoir viral de guérison. Plutôt dans une lettre datant de 1897, il avait écrit à Foulon de Vaux « Si le don d'écrire m'a été accordé, n'est-il pas infiniment plausible de conjecturer que j'ai surtout la mission d'agir sur les âmes ?» Donc cette idée est répétée à plusieurs reprises, et s'il se fait dans la première partie de sa carrière pamphlétaire, c'est avant tout pour venir combler sa volonté d'agir sur les âmes. Et comment va-t-il faire ? donc en tentant, selon moi, de resacraliser le monde par le discours à travers la langue. À ce moment si particulier de la crise de la littérature, pour utiliser la terminologie d'Alain Vaillant, à la fin du XIXe siècle, où le gouffre entre l'auteur et les lecteurs se creuse. Plus qu'un nostalgique de l'ancien régime, comme a pu l'être son maître Barbé d'Aurevilly, Léon Blois est nostalgique du système féodal. Alors on peut se poser des questions sur la nature de cette nostalgie. Le système féodal illustre pour lui cette époque où rois et seigneurs détenaient une autorité sacrée avant même d'avoir parlé. Or, le XIXe siècle et le siècle où les régimes politiques qui se succèdent donnent de plus en plus la parole à tout un chacun. On assiste au cours du siècle à la libéralisation du discours de presse, au règne des journalistes, ceux qu'il appelle les argousins de la pensée, que Blois fustige dans Le Pal. Il est fasciné par le monde médiatique parce que la prise de parole par tout un chacun représente en quelque sorte pour lui une espèce de contre-utopie infernale. Dans ce contexte, la violence verbale va lui permettre d'agir sur ses lecteurs. Loin de s'en tenir à la mélancolie romantique d'un René auquel manque justement le pouvoir d'agir, Blois fera de ses héros des hommes ou des femmes d'action, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc, Napoléon, les autocrates romains ou byzantins. Et à travers la performativité de la violence verbale, Blois, en maudissant, en blasphémant, prétend avoir un impact sur le réel et agir autant qu'il énonce. Et quand il écrit cette fameuse phrase au père Cyprien, « Un jour, j'ai menacé Palmé de lui brûler la cervelle et personne dans la boutique n'a jamais pu discerner la profonde ironie de cette menace absurde », ici, on lit le plaisir extatique de Blois, eu égard à l'impact qu'une telle parole pourrait avoir eu sur l'esprit de ses auditeurs. La violence verbale lui permet de mesurer son pouvoir en fonction du degré d'indignation ou du silence de son auditoire. Plus l'auditoire lui sera hostile, plus il envisagera son pouvoir comme agissant. C'est ce qu'on lit, il me semble, dans ses journaux, dans sa correspondance et ses pamphlets. Et donc, dans cette perspective, l'imprécation bloyenne peut apparaître comme une nostalgie de la parole magique. Idéalement, Blois vise une écriture dont la nature serait équivalente à la parole magique. Dans son ouvrage « La fonction persuasive, anthropologie du discours rhétorique », Emmanuel Damblon décrit les différents types de discours qui ont précédé le discours rhétorique. Aux origines de la rhétorique, explique-t-elle, préexistent la parole magique et la parole rituelle. Elle décrit par quel mécanisme l'efficacité de la parole, immédiate et concrète dans la parole magique, devient l'enjeu d'une relation entre l'orateur et l'auditoire dont il doit susciter l'adhésion. Elle distingue l'auditoire de la parole magique de celui de la parole rituelle et rhétorique et soutient que la liberté que possède en principe l'auditoire de la rhétorique d'adhérer ou de ne pas adhérer aux arguments de l'orateur n'est possible que dans le cadre de conventions et d'institutions laïques d'une société qui n'associe plus la valeur d'un discours à l'autorité sacrée préexistante de l'énonciateur. Elle instaure donc un lien entre la parole rhétorique et la possibilité de la démocratie. Or, Léon Blois, en fait, va venir court-circuiter ce lien, puisqu'il ne souhaite ni ne croit à la possibilité démocratique. Ses discours prétendent à l'efficacité de la parole magique qui accomplit des choses au moment de l'énonciation, une parole autoritaire et unilatérale qui provoque la réalisation d'un événement autant qu'elle le représente. Comme la parole magique, prenons l'incantation contre les brûlures par exemple, la violence verbale de Blois est action parce qu'elle n'attend pas de retour. Une action ne se discute pas, elle est évidente. L'adhésion face à la parole magique est contraignante et déterminée par la nature des choses. La parole magique se distingue bien donc de la parole rituelle et de la parole rhétorique qui fondent toutes deux leur autorité sur l'adhésion de l'auditoire. Dans Le Désespéré, Cain Marchenoir prévient, je cite, et vous avez cette citation sur votre exemplier. « Qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas, qu'on m'applaudisse ou qu'on m'insulte, aussi longtemps qu'on ne me tuera pas, je serai le consignataire de la vengeance et le domestique très obéissant d'une étrangère fureur qui me commandera de parler. Il n'est pas en mon pouvoir de résigner cet office et c'est avec la plus amère désolation que je le déclare. Je souffre une violence infinie et les colères qui sortent de moi ne sont que des échos, singulièrement affaiblis d'une imprécation supérieure que j'ai l'étonnante disgrâce de répercuter. » Emmanuel Damblon explique qu'à l'origine, la parole magique occupait un champ institutionnel beaucoup plus large, à commencer par celle de la politique et de la justice. Et dans la Grèce archaïque, les poètes inspirés étaient chargés de produire des discours, d'éloges et de blâmes qui étaient réputés immortaliser les héros, alors dans les vices ou dans les vertus. Les poètes racontent les événements vécus par la communauté, au cours desquels certains ont fait preuve de courage ou de lâcheté, et les portraits ainsi dressés ne sont pas uniquement descriptifs, ils sont perçus comme ayant un pouvoir de réalisation, transformant par leurs paroles les guerriers en héros immortels ou en l'objet d'un mépris total et définitif. Le pouvoir politique de ces poètes magiciens est donc immense, puisque la société reçoit ces représentations, ensuite, qui sont transmises de génération en génération. Dans un tel contexte, le discours d'éloge est un discours magique à finalité politique qui participe à la création du héros. De même, la violence verbale imposée à travers les œuvres de Léon Blois, dans sa dimension performative, est créatrice de réalités nouvelles. Pour mettre en œuvre cette parole magique, Blois aura recours à la figure du prêtre. Il évoque à plusieurs reprises dans sa correspondance l'importance capitale du prêtre au sein de la liturgie catholique. Il est l'homme d'action par excellence, le messager permettant le passage du profane au sacré. Et selon lui, le christianisme sans le prêtre n'est rien. Donc je cite une lettre à Louis Douzon du 6 juillet 1899, que vous avez également dans votre exemplier, qui date de son exil douloureux au Danemark. Le monde protestant qui m'environne est incontestablement laid, médiocre, dénué d'absolu autant que possible. Quel est le caractère propre de ce monde-là ? C'est l'exclusion du surnaturel, c'est le surnaturel exclu du christianisme, c'est-à-dire l'idée la plus illogique et la plus déraisonnable qui ait jamais pu entrer dans la tête humaine. Conséquence, le mépris du sacerdoce, l'avilissement de la fonction sacerdotale, en dehors de quoi le surnaturel ne peut être manifesté. Sans le pouvoir de consacrer, de lier et de délier, le christianisme s'évanouit pour faire place dans les étables de Luther et de Calvin à un rationalisme abject, certainement inférieur à l'athéisme. Le prêtre catholique a une telle investiture que s'il est indigne, la sublimité de son ordre éclate d'autant. Voici un prêtre criminel, passible, si on veut, de la plus ample damnation et qui, cependant, a le pouvoir de transsubstancier. Comment ne pas sentir cette beauté infinie ? Et un peu plus tard, au mois de juillet, il réitère au même Douzon, « Il n'y a qu'une action, c'est l'obéissance, qui est la marque des hommes supérieurs, la sublime et sainte et salutaire et virginale et miraculeuse et primitive obéissance, qui est tout uniment la dénomination théologique du paradis terrestre perdu. » Donc là, j'ai coupé un petit peu dans la lettre. « Ah, si vous saviez, si vous pouviez entrevoir une seule fois, la voilà, l'activité. Savez-vous que la messe, le sacrifice de la messe, est l'acte unique d'obéissance, l'acte essentiel, etc. etc. » Donc, ce qui est important ici, c'est que pour Blois, le prêtre est celui qui transmet l'énonciation théocratique intransigeante, qui incarne la parole magique de la manière la plus sublime qui soit. Ce qu'il y a de particulier aussi chez le prêtre, c'est que d'une certaine manière, il confisque la parole. Son autorité vient de cette stratégie énonciative. C'est un modèle que, selon moi, Blois peut suivre de temps en temps dans ses pamphlets. Il ne partage pas sa parole, même si certains textes ont des réponses polémiques qui visent à réagir à l'actualité. La violence verbale qui émerge dans son œuvre rompt les pactes énonciatifs, qui sont normalement ceux du journaliste et de l'écrivain. Et d'ailleurs, dans un ouvrage récent qui a réuni plusieurs contributions, Christophe Charles, dans La vie intellectuelle en France, a distingué Blois des autres polémistes de son temps, puisque, au départ, le PAL devait être une revue rédigée avec Huysmans, et puis finalement, Blois la rédige seule, de bout en bout, comme un enragé, et Christophe Charles dit que c'est une revue homme, ce qui prouve bien quand même que, d'une certaine manière, il confisque la parole. Et on sait que s'en suivra une conspiration du silence engagée par Mermex dans un article intitulé « Le fou » qui réagit au premier numéro du PAL le 10 mars 1885, dans lequel Mermex dit « Le Voltaire a donné le nom du bonhomme, le titre de son pamphlet. Nous n'imiterons pas notre confrère. Silence aux calomnies, à leurs amis, c'est le seul châtiment qu'on puisse infliger aux calomniateurs. Le silence l'empêchera de vendre sa marchandise, il le frappera au porte-monnaie, au cœur. » Et donc, grâce à cette conspiration du silence, Blois peut devenir persécuté à son tour et donc incarner dans une logique de dire vrai l'élu, c'est-à-dire celui qui a le courage de la vérité et qui par conséquent s'expose à l'isolement. Donc pour lui, la liberté d'expression est une promesse de persécution. Et bien avant lui, Paul-Louis Courier l'avait affirmé dans le pamphlet des pamphlets publié en 1824. Dans votre exemplier, c'est la citation numéro 5. « Aucune vérité ne s'établit sans martyr, excepté celle qu'enseigne Euclide. On ne persuade qu'en souffrant pour ses opinions. » Et saint Paul disait « Croyez-moi, car je suis souvent en prison. » Donc plusieurs éléments, évidemment, hein, tendent à placer Léon Blois dans la filiation directe de Paul-Louis Courier, alors pas du tout idéologiquement, hein, évidemment, mais en termes de forme. Comme lui, il défend à travers l'énonciation pamphlétaire une figure exemplaire du courage du verbe, la parésia. Dès ses premiers échanges avec les directeurs des journaux auxquels il collabore, du Figaro Au Gilles Blas, qui le congédie tous, Léon Blois fixe en lui les attributs du pamphlétaire assumant toutes les conséquences du courage de la vérité. Il ne cessera de répéter que celui qui énonce une gouttelette de cet acide qu'on appelle la vérité sera persécuté pour cette tâche, et il transforme la colonne de silence médiatique qui l'entoure en preuve de son élection parésiaste. Par exemple, Léon Blois a pu rédiger l'exorde d'un projet de conférence à Bruxelles en mars 1895, qui finalement n'aura jamais lieu, mais dans laquelle il se construit l'éthos du persécuté et de celui qui reçoit sur lui les malédictions. Donc je cite « Mesdames, messieurs, je commence naturellement par solliciter votre malveillance. Depuis 15 ans, j'aurai travaillé nuit et jour à me rendre insupportable à tous mes contemporains. Ô désirable, voluptueuse et rafraîchissante ignominie. » Alors, je m'excuse pour le degré scatologique de ce qui va suivre. Fontaine de délices vers laquelle doit soupirer tout artiste fier. Ne m'en privez pas, messieurs, je vous en supplie. Lancez-moi quelques excréments, quelques valides excréments sortis du cœur. Fortifiez-vous à la pensée que j'ai l'ambition de vous déplaire et laissez-moi l'espérance d'y parvenir. Donc, Blois approfondit par ses appels à la persécution le rôle de l'archétype christique qui prend sur lui les malédictions, qu'il associe dans la conférence « Les funérailles du naturalisme » à l'artiste sacrifié, prenant sur lui la charge sacrée de la victime expiatoire. Donc, j'ai pas le temps de citer, mais c'est un très beau texte. Dans le bilan de son livre, Cédric Passard, sur l'âge d'or du pamphlet, attribue la décadence du pamphlétaire à l'absence de contenu lors diatribe. Au compte convenu de leurs attaques. Et là encore, il me semble, le pamphlet est perçu dans son contenu argumentatif plus que dans ses effets pragmatiques. Mon propos ici n'est pas d'affirmer que l'argumentation de Blois serait inexistante dans ses pamphlets, mais plutôt que l'argumentation existe aussi à travers d'autres modalités que celles du discours, puisqu'avant même de parler, il sollicite la malveillance de son auditoire. Cela montre bien qu'il vise à un effet pragmatique et qu'il valorise l'effet produit par sa parole oppositive. Parmi les nombreux exemples dont regorge son œuvre, avant même que son livre sur Mélanie soit publié, il écrit à son traducteur tchèque, Joseph Florian, en 1910, « Me voilà donc appelé à une œuvre unique devant attirer sur moi des persécutions extraordinaires. J'en suis tout enivré. » La persécution est nécessaire à Léon Blois, car elle correspond à son statut de chrétien, qu'il aime à envisager, comme il a été dit ce matin, comme s'il faisait partie des premiers chrétiens, les chrétiens du temps de Pline et de Trajan. Je vais citer une affirmation de Hans Kelsen dans sa théorie pure du droit, dans laquelle il disait « De même que tout ce que le roi Midas touchait se transformait en or, tout objet auquel le droit s'applique acquiert une existence juridique. » Donc on peut affirmer avec Léon Blois que les chrétiens du début de la chrétienté avaient besoin de la justice qui les persécutait. Sans elle, ils ne méritaient pas ce titre de persécuté au même degré que les martyrs n'auraient pas mérité leur titre de martyr sans les lois condamnant le sacrifice volontaire à partir de Trajan au début du 1er siècle. Et puisque nous sommes au 1er siècle, passons à la dernière partie de cette réflexion dans laquelle il sera question d'obsession sanglante et de nostalgie du sacrifice dans l'œuvre de Blois. Donc, vous savez que c'est un motif récurrent dans l'œuvre de Blois. Dans « Latin et latinité » dans l'œuvre de Léon Blois, Gaël Guyot entame une réflexion sur l'exposé jubilatoire des massacres romains dans l'œuvre de Blois, et particulièrement dans son article « La langue de Dieu », où Blois fait l'éloge du latin pour répondre un petit peu aussi à Gourmont, et dans « Le révélateur du globe », où l'ère chrétienne est liée à l'ère antique par le fil d'une même expression de la force, de la puissance et de l'aptitude au triomphe. Donc je cite Gaël Guyot-Rouge, « La cruauté romaine est dans cette œuvre exhibée avec jubilation comme manifestation extrême d'une puissance qui creuse à ses dépens le lit du christianisme à venir. » Dans toute son œuvre, Blois prête une claire allégeance à toute réalité qui incarne la force, la domination et toute forme de démesure associée au divin. Il réhabilite les persécuteurs car il voit dans la manifestation de leur puissance la main de la Providence qui sait ce qu'elle fait. Donc, Blois, je vais en venir à la dernière idée, n'entend pas tirer, selon moi, son autorité tant de sa parole que de la mise en scène de sa parole. Autrement dit, il n'attend pas tirer son autorité de son public, mais du rapport sacré au sens anthropologique qu'il instaure avec lui à travers la violence ritualisée du verbe. Il conçoit la violence infligée à son public comme la possibilité d'assumer la noble tâche de l'élever en l'éprouvant. Il tend à faire éprouver à ses lecteurs le sacré à travers la terreur et la volupté que l'extrait que Pierre Glaude a lu ce matin de l'art de déplaire ou du scalpe critique exprime parfaitement. Donc je vous le rappelle, le réel, c'est de savourer des épithètes homicides, des métaphores assommantes, des incidents à couper les triangulaires. Il faut inventer des catacrèses qui empalent, des métonymies qui grillent les pieds, des synecdoques qui arrachent les ongles, des ironies qui déchirent les sinuosités durables, des litotes qui écorchent vif, des périphrases qui émasculent et des hyperboles de plomb fondu. Surtout, il ne faut pas que la mort soit douce. Osons donc, pour tenter d'interroger la radicalité de ce texte, reprendre la formule de recharge sacrale. Léon Blois participe, selon moi, à travers l'expression d'une violence verbale, ponctuée d'une terminologie ayant trait au sacrifice, de manière active et méditante au mouvement de recharge sacrale qu'a décrit Alphonse Dupron dans Puissance et latence de la religion catholique, et que reprend M. Philippe Boutry à plusieurs reprises pour expliquer les résistances et les permanences de l'Église catholique en France au XIXe siècle. En effet, conscient de la capacité de l'Église catholique à créer elle-même ses propres sacralités pour le présent, Léon Blois se fait un chantre du renouveau cultuel catholique. Sa violence verbale peut être rapprochée de l'énonciation théocratique présente dans la Bible, que reprend le prêtre agissant, ainsi que de la parole magique unilatérale et incontestable. Elle est, à sa manière, une stratégie énonciative qui participe d'une relance cultuelle. Dans son œuvre, la Bible constitue le dogme, vous le savez, par lequel tout est fondé et auquel tout revient. Il utilise l'autorité préexistante de l'Écriture pour s'en servir comme référence ultime, permanente et première, et donc l'Écriture crée la norme lexicale. Toute parole qui la contredira sera ennemie de la vérité, accusée d'escroquerie et de mystification. Et dès lors, l'emploi de termes issus des textes sacrés en dehors de la acception catholique est une erreur, signe de dégradation des mœurs et des valeurs propres au XIXe siècle, ce voleur de gloire qui profane le langage humain et qui devient dès lors absolument tabou. Et d'ailleurs, Blois en interdit l'usage, en conteste l'usage en dehors de l'emploi théologique. Cette manière de procéder lui permet, par ailleurs, de se situer au-dessus du politique, grâce à un appel permanent à la censure des textes qui ne reprennent pas la logique théologique. Et, il me semble, on pourrait faire une analogie entre l'usage de l'interdit local par l'Église, comme arme contre le pouvoir temporel, et l'imprécation bloyenne, qui sont deux manières d'agir qui prétendent se placer au-dessus du politique à travers le dogme. Donc je vous rappelle que l'interdit local est une sanction pénale préconisée par l'Église catholique, qui est un produit d'une époque, le Moyen-Âge, et plus encore de l'époque féodale, il se présente comme la cessation du service divin et donc comme la négation d'une fonction essentielle des évêchés, qui est celle de baptiser, le pouvoir de consacrer, de dire la messe et d'accorder une sépulture. Et l'interdit, dans la mesure où il est une sanction à l'égard d'un ensemble de populations sans distinction, a pu être en son temps, évidemment, vécu comme extrêmement injuste. Et il apparaissait comme une pression arbitraire qui avait pour objectif l'imposition d'une théocratie vaticane, pontificale. Le pape Grégoire VII, en son temps, usant de l'interdit local contre le pouvoir temporel des princes en France au XIe siècle, et Blois préconise l'interdit comme sanction contre l'incrédulité moderne dans La femme pauvre, quand Marche Noire déclare à Clotilde et à Léopold, je cite, « Voyez-vous Léon XIII jetant l'interdit sur les 80 diocèses de France, ou un interdit absolu, omni appellationes remota, jusqu'à l'heure où tout ce grand peuple sanglotant demanderait grâce. Je vous dis que la France ne pousserait qu'un cri. Mourante de peur, elle comprendrait qu'on lui arrache les entrailles. Elle se réveillerait de ses abominations comme d'un cauchemar. Et le cantique de pénitence du vieux coq des Gaules ressusciterait l'univers. » Donc c'est au chapitre 7 de la deuxième partie de La femme pauvre. Donc selon Marche Noire, les Français brusquement privés de baptême et de sépulture chrétienne comprendraient leur douleur et se rendraient compte de leur dépendance entière à l'égard du culte romain. Donc ce qui plaît à Blois dans l'interdit pontifical est l'empiètement qu'il exerce à l'encontre du pouvoir temporel, son irrévérence absolue à l'encontre des États modernes. Il valorise le catholicisme dans sa propension à soumettre, dans son injonction à l'obéissance, permettant de mettre les masses dans un état de terreur panique, mais mystique, autrement dit jouissant de la bienfaisance d'une relation privilégiée à la transcendance. Ainsi, le goût de Blois pour certains pouvoirs de l'Église, qu'il tend à reproduire à travers sa propension à l'anathème, met l'accent, dans l'action accomplie, sur la violence du rapport unilatéral, qui est une consécration de l'obéissance à une autorité centrale. Dans son ouvrage « Littérature et ritualité, enjeu du rite » dans la littérature française contemporaine, Myriam Vatti-Delmotte rappelle que le rite est ce qu'il y a de plus archaïque et de plus constant dans les sociétés humaines. Blois renoue avec le rite et s'arroge la fonction sacrée du sacrificateur par des textes qui prennent en otage le lecteur et mettent en scène une certaine tyrannie de l'auteur, donc pour reprendre une formule de Maurice Couturier qu'il a utilisée à propos de Nabokov, parce que cette tyrannie prétend redistribuer les rôles sociaux à travers un simple phénomène énonciatif qui est la violence verbale. D'auteur, il devient celui qui impose des images et inspire l'horreur et l'indignation, mais aussi, dans une certaine mesure, la volupté plastique du verbe, il modifie les affects de ses lecteurs et les réunit dans une même indignation, dans un même sentiment de rejet, en confirmant que la parole a des pouvoirs et surtout une fonction sociale, celle de fonder une collectivité de lecteurs qui ne demande qu'à être exploitée. Donc je vais m'arrêter là et je voudrais juste peut-être conclure en insistant sur le fait que le rapport de Léon Blois à la religion est éminemment dramatique. Il s'agit beaucoup de mise en scène. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce rapport avec le rituel. La mise en scène de la figure du persécuté, tout comme celle de sa rage de persécuteur, lui permet de mettre en relief une dramaturgie propre au christianisme et de la renouveler à une époque à laquelle ce procédé passe pour éminemment anachronique, évidemment. Sa violence verbale relève du rite dans la mesure où elle permet à l'énonciateur de s'arroger une puissance incontestable, argumentativement, et où elle cherche à infliger de manière archaïque un mélange de crainte et de volupté qu'il souhaite être celui propre aux chrétiens devant l'incertitude et le mystère de l'existence. Et je voudrais juste, pour terminer, ensuite j'en aurai fini, je voudrais revenir sur ces mots de persécuté et persécuteur et sur le préfixe « père ». Père, présent dans semper, toujours, qui, selon moi, en fait, reflète l'attrait poétique de Blois pour le séquent, pour ce dont on ne conçoit pas la limite. Et en fait, la recherche de l'absolu bloisien détient elle-même cet aspect séquent. Mais je pense aussi qu'il y a dans ce père l'idée d'une relation vers l'autre. Et son existence de croyant et d'écrivain est un élan, malgré tout, perpétuel vers l'autre. Peut-être cela peut sembler contredire tout ce que je viens de dire, mais je le pense. Je pense qu'il y a chez Blois, évidemment, une nostalgie de la communauté perdue. Voilà. Et donc ce préfixe père, il y a cette idée-là dans le préfixe présent dans persécuté et persécuteur. Je vous remercie.